À Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce jeudi saint, j'aimerais vous parler de l'Eucharistie, c'est évident. Mais l'Eucharistie en tant que don, en tant que... C'est un acte créateur de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui... On pourrait dire parfait. Son amour en nous. C'est une interrogation au fond... que l'Eucharistie, hein. On peut se poser au départ, si Dieu est tout-puissant, comme l'affirme le « Je crois en Dieu », « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant », et si Dieu est amour, on le dit souvent, hein. C'est saint Jean qui nous le fait dire très souvent, ça lui a été révélé de façon si profonde. Alors, comment ce Dieu peut-il permettre, évidemment, toutes les violences et souffrances et misères de notre monde? C'est la question que nous nous posons tous. Or, la toute-puissance de Dieu, c'est pas celle d'un magicien. Il faut s'enlever ça de la tête une fois pour toutes. C'est celle de l'amour. C'est son amour qui nous arrache à nous-mêmes. C'est son amour qui nous guérit. C'est pour ça qu'on peut voir parfois des gens qui sont dans des états de souffrance épouvantables et qui ont le sourire aux lèvres. C'est qu'ils savent que Dieu les aime, mais ils ont nourri en eux cette capacité d'aimer qui leur vient justement de Dieu lui-même, fidélité à Dieu. Et la toute-puissance de Dieu, ben, elle est enfouie dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, nous qui sommes créés à son image. Oui, la toute-puissance de Dieu est là, cet amour en nous. Et quant à Jésus-Christ, ben, l'image qu'il nous donne de Dieu, c'est plutôt, en fait, celle d'un serviteur, hein, que celle d'un monarque muni de plein pouvoir. On dit bien tout-puissant, mais tout-puissant par son amour, par son service. Oui. En réalité, l'expérience montre que notre façon de parler... de religion, des choses religieuses. Ça a grand besoin de s'adapter à la culture de nos contemporains. Et puis, ces mots-là font surgir dans la mentalité de nos contemporains des conceptions de Dieu qui sont parfois à l'opposé, justement, du message évangélique qui nous est donné aujourd'hui en ce jeudi saint qui est tellement extraordinaire. Hein? Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Et qui se donne à nous sous les apparences du pain et du vin. C'est tellement fantastique. C'est vrai que la formule Dieu tout-puissant, c'est vrai ça. C'est vrai aussi, Jésus nous sauve. Puis quand on parle du sacrifice de la croix, puis du péché, de l'incarnation, de la rédemption, tout ça. Et aujourd'hui, nous allons cheminer tout près de l'Évangile. Tout près, tout près. En suivant le grand temps fort du jeudi saint. Parce que nous allons découvrir, je l'espère, comment Jésus a exercé la véritable toute puissance. Et puis, nous allons purifier peut-être, je l'espère, aussi l'image que nous avons de Dieu. Alors, ensemble, nous allons contribuer authentiquement à la venue de son règne ce soir, si nous allons, j'espère que vous allez tous à l'église, ce soir pour cette belle célébration. Parce que c'est la venue du règne de Dieu, ce règne si doux en nous, puis dans ce monde. Hein? Ce règne nous est confié à nous tous. Saint Jean, l'évangéliste, il présente cette veillée qui précède l'arrestation de Jésus sous forme d'une longue méditation et qu'il met dans la bouche du Seigneur et qu'on appelle souvent le discours après la scène. Hein? C-E, accent grave, N-E, évidemment, hein? Après le repas, la dernière scène, comme on le voit parfois sur des beaux tableaux. Hein. Ce qui est très surprenant, c'est que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et aussi saint Paul même, ils n'ont retenu de ce dernier repas que l'invention, si vous voulez, ou comme on dit généralement, l'institution de l'Eucharistie par Jésus. Ils en font l'événement principal de cette soirée. Pourtant, saint Jean, lui, qui consacre cinq chapitres, cinq longs chapitres, c'est long, à cette même soirée, Il fait même pas allusion à l'Eucharistie, c'est curieux, hein? Je vais vous expliquer ça. En revanche, Saint Jean est le seul à nous rapporter la scène de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. J'y reviendrai tout à l'heure. Après avoir lu quelques lignes des textes que l'Église nous donne à méditer ce soir à la messe, dans cette grande célébration, trois textes. Le premier, bien on peut passer, c'est tiré de l'Ancien Testament, ça vient de l'Exode au chapitre 12, puis ça présente les instructions juives là, pour le déroulement de la Pâque juive. Ça nous indique bien que Jésus est juif, il va célébrer cette Pâque, que notre religion a des origines juives, que nous sommes héritiers, en fait, de l'Ancien Testament. Et le deuxième texte est un extrait de la belle lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Et Saint Paul raconte l'institution de l'Eucharistie. C'est pas long. Je vais vous en faire la lecture. C'est pas long, c'est quelques lignes. Frères, quand tu dis frères, ça veut dire frères et sœurs, ne vous en faites pas, on pourrait presque dire frères et sœurs. Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, voyez-vous, ce soir, là, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » D'après le repas, il fit de même, dit Saint Paul, avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » La nouvelle alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Disons le nouveau mariage, la nouvelle union d'amour, la nouvelle alliance. Hein, quand des fiancés s'échangent des alliances, c'est qu'ils se promettent leur amour. Eh bien, c'est ça l'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus, c'est son âme pleine d'amour, hein? Et chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Et ainsi donc, chaque fois, dit Saint Paul, que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On proclame sa mort et en fait sa résurrection. Et puis le troisième texte, lui, que l'Église nous offre ce soir, c'est le début du chapitre 13 de l'Évangile de Saint Jean. On y voit Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Oh, c'est le temps de vous en lire un petit passage. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et au cours du repas, raconte Saint Jean, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, eh bien Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu, qu'il retourne à Dieu, se lève de table. Il quitte son vêtement, portait sans doute comme un manteau, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il était presque nu, finalement. Curieux. Puis il arrive devant Simon Pierre, le premier pape, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Et Jésus lui déclare, « Ce que je veux faire, Pierre, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Alors Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais, jamais. » Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Oh, alors, Seigneur, oh, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprend son vêtement et se remet à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Alors Jésus invite ses disciples, c'est-à-dire qui sont ses disciples? C'est ceux qui croient en lui, qui ont appris à l'aimer. Alors il les invite à la fraternité, au service, au partage. C'est déjà ce que saint Jean a abordé autrement au chapitre 6 de son évangile qui est si beau. Et le chapitre 6 est consacré à l'enseignement sur l'Eucharistie. Ça commence par le récit de la multiplication des pains. Vous vous souvenez, hein? Jésus donne à manger à 5000 personnes, à partir de quoi? Des 5 pains qu'a bien voulu apporter un jeune garçon qui s'était, disons, apporté une espèce de lunch. Et c'est le miracle du pain partagé. Pour que Jésus puisse donner à manger à tous, il a fallu quoi? Ben, il a suffi qu'un seul petit garçon accepte de partager le peu qu'il avait. Et après avoir fait ce miracle, Jésus va prononcer le fameux discours sur le pain de vie. Écoutez bien, ça c'est si beau, hein? « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Oh mon Dieu, j'aurais le goût de répéter ces paroles 100 fois, ces belles paroles de Jésus. « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » En fait, il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, l'Eucharistie, c'est le sacrement du pain de vie qui est partagé. C'est le sacrement de la communion. C'est le sacrement de l'unité. C'est-à-dire que c'est le signe que Jésus est nourriture pour les hommes. Puis l'Eucharistie, mais c'est aussi le moyen, la force, la grâce pour aider les hommes et les femmes à partager et à s'unir autour du Seigneur. Hein, il faut aussi ajouter que c'est... Et c'est très, très important que l'Eucharistie, c'est le sacrement du corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que l'Eucharistie est le signe que Jésus est celui qui nous rassemble en un seul corps. C'est le moyen pour les hommes et les femmes de ne plus former qu'un seul corps, le corps du Christ. Hein? Écoutez bien, nous sommes le corps du Christ quand ensemble nous nous nourrissons du même pain de vie. Quand vous communiez, vous pouvez regarder ceux qui communient autour de vous et prier pour eux. Je fais ça souvent. Oh Jésus, tu es en moi et tu es en cette femme qui vient de communier là. Fais que nous sachions, sans nous connaître, vivre de toi et construire ton royaume ici, dans cette paroisse. Et on peut prier comme ça pour les gens aussi, pour que Jésus guérisse leurs tourments quand on sait qu'ils en ont peut-être. Alors, nous sommes le corps du Christ quand ensemble nous nous nourrissons du même pain de vie. Ainsi, nous pouvons dire selon la formule bien connue que l'Église fait l'Eucharistie, puis l'Église, l'Eucharistie fait l'Église. Hein? Il y a autre chose, et c'est bien important. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la présence réelle. Mais dira-t-on, il est réellement présent partout puisqu'il est Dieu. Dieu est partout. Oui, d'accord. Mais je veux dire que l'Eucharistie, c'est le geste, le signe par lequel nous affirmons que Dieu est réellement présent. L'Eucharistie, c'est le moyen de réaliser sa présence. Et là où est l'amour, là est le Christ. Et s'il y a présence réelle, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une hostie consacrée par les paroles du prêtre, mais parce qu'il y a des disciples réunis au nom de Jésus pour vivre de lui, se nourrir de son amour et former son corps qui est l'Église. Oui, c'est ce que nous devons faire, former son corps qui est l'Église. Nous devons nous rappeler que l'institution de l'Eucharistie, puis le geste de Jésus, ce geste extraordinaire, quand il lave les pieds de ses disciples, bien, ces deux événements-là ont lieu l'un et l'autre dans un contexte pascal, comme je vous ai dit, c'est-à-dire dans le contexte de la fête de la libération des Juifs. Dans les trois évangiles synoptiques, là, je le répète, Matthieu, Marc et Luc, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc, l'institution de l'Eucharistie a lieu au cours de ce repas pascal. Le repas juif, c'est-à-dire, donc, de cette grande célébration, qui est une des plus grandes fêtes juives, la Pâque juive. C'est l'anniversaire, comme je vous dis, de la libération d'Égypte, quand le peuple esclave des Égyptiens, peuple juif, réussit à se libérer, à traverser la mer Rouge qui s'ouvre devant eux, n'est-ce pas? Et ils arrivent finalement, petit à petit, à la libération. Le chapitre 13 de Saint Jean, où Jésus lave les pieds de ses disciples, je vous l'ai lu tout à l'heure, commence par une introduction solennelle. Une introduction qui place ce geste et tout ce qu'on appelle le discours après la scène, après le repas, donc, dans ce même contexte de célébration de la Pâque. Je vous lis le texte de Saint Jean, là. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, vous vous souvenez, je vous l'ai lu tout à l'heure, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est là-dessus que je veux insister. C'est donc au cours du même rite, de la célébration de l'alliance, ou comme je vous disais tout à l'heure, du mariage, si vous voulez, de Dieu avec le peuple juif, que Jésus célèbre la nouvelle alliance, si vous voulez, de ce remariage de Dieu, mais cette fois-ci avec toute l'humanité. Tous. Saint Paul va le dire. Il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni d'hommes, ni de femmes, ni d'esclaves, ni de maîtres, ni rien. Nous sommes tous les enfants de ce Dieu qui nous aime. Et le Christ est venu nous livrer cet amour jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Et de se donner à nous dans l'Eucharistie, et de mourir sur la croix, et de ressusciter, et de nous livrer un message qui est si beau quand on lit les évangiles. Qui lit encore vraiment les évangiles du début à la fin? Il faudrait que tout le monde les lise et les médite tous les jours. Dieu avait fait donc une première alliance avec son peuple. Il l'a fait passer sous la direction de Moïse, de l'esclavage d'Égypte à la terre promise. Puis en Jésus, Dieu instaure une nouvelle alliance, comme il est dit, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. C'est toujours des questions de passage. Jésus est donc, et c'est très très important, il est donc le nouveau Moïse qui fait passer avec lui, par lui et en lui, toute l'humanité de l'esclavage du péché à la vie divine. C'est le temps aujourd'hui de se confesser, c'est le temps de transformer nos vies, c'est le temps de sortir comme ces gens dont je vous ai parlé, comme hier. Vous avez écouté peut-être cette comédienne, grande, grande comédienne de Paris, une des plus grandes de son temps, Ève Lavallière, qui avait des amants qui étaient des princes et des ducs, il y a des maharajas qui s'offraient à elle. Elle a eu des directeurs de troupes de théâtre, des hommes très riches. Elle avait un hôtel particulier, elle avait tout. Elle a eu un enfant, en dehors du mariage, une fille, dont elle a réussi à s'occuper tant bien que mal. Et tout à coup, elle s'arrache à l'esclavage du péché, puis elle trouve une vie divine, puis elle le dit dans des belles prières et des textes admirables. Combien son bonheur est immense. J'ai tout raconté ça hier. C'est vécu par des tas de gens qui changent de vie, hein, et le pain rompu est partagé. Puis la coupe du vin des noces, oui, des noces du mariage, sont le signe de l'alliance nouvelle et éternelle qui s'établit entre Dieu et nous. Hein. Jésus le dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de mon âme. Le sang chez les Juifs, c'est l'âme. On le voit, je vous l'ai déjà dit, chez les témoins de Jéhovah, qui sont très, très, très fondamentalistes. Ils interprètent ça encore comme ça. Ils n'acceptent même pas les transfusions de sang dans nos hôpitaux. Il faut presque les obliger pour sauver leurs enfants. Car ceci est la coupe de mon sang. Cette âme pleine d'amour de Jésus, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, sur toute la surface de la terre pour nous sauver, nous arracher à nous-mêmes, pour nous libérer et nous permettre de comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que tout. C'est le grand don qui nous est fait aujourd'hui et que l'on célèbre. Pour vous, oui, sera versé pour la multitude en rémission des péchés. Ça efface nos péchés. Ça nous permet de demander pardon à Dieu. La réception de l'Eucharistie. Ça nous jette dans les bras de Dieu, comme l'enfant prodigue, qui avant même de demander pardon à Dieu, son père lui pardonne. D'après coup, qu'il dit, « Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. » Oui, j'ai péché. J'ai pas été gentil, j'ai pas été bon, j'ai pas été reconnaissant, je n'ai pas compris ton amour. Et là, je reviens. Oui, je reviens. Alors, on peut dire que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'alliance et du mariage, l'alliance nouvelle et éternelle. C'est-à-dire le signe de Jésus se donnant à l'humanité, puis le moyen que les hommes et les femmes ont de renouer sans cesse l'alliance avec Dieu. Et nous voyons comment les trois lectures de ce jour s'éclairent l'une l'autre. Et nous sommes en présence de trois rites. Celui de la célébration de la première alliance, la Pâque juive. On va lire ça ce soir. Celui de l'institution de l'Eucharistie, rite de la nouvelle alliance. Puis celui, oh que c'est si beau, de Jésus, lavant les pieds de ses disciples et prenant ainsi l'attitude du serviteur, hein, qui annonce le sacrifice du serviteur souffrant. Alors nous pourrions, ensemble, en ce jeudi saint, comme chanter, si on veut dire, les litanies de l'Eucharistie, car l'Eucharistie, sacrement de l'offrande du Christ à son Père, voilà ce que c'est. L'Eucharistie, sacrement de la vie donnée pour les autres, voilà ce que c'est. L'Eucharistie, sacrement du pain de vie partagé, et sacrement de la communion, et sacrement de l'unité, et sacrement du corps et de l'âme du Christ, au sacrement de la présence réelle, resplendissante d'amour, et sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle, qui nous arrache à l'esclavage, je le répète, puis à la platitude du péché pour nous faire entrer dans l'univers de la vie divine, de la vie de Dieu, puis de la joie véritable. Voilà ce qu'on célèbre aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'occasion du Jeudi Saint, il est question de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est un don, et qui est un acte créateur de l'amour de Dieu. Nous allons surtout aborder cette question-là, durant la deuxième demi-heure, avec le beau livre du Père Bernadot, de l'Eucharistie à la Trinité. Je vous en ai parlé cette semaine, puisque c'était la lecture préférée de certaines des personnes dont je vous ai parlé cette semaine. C'est un livre publié par les éditions du Cerf. Je crois qu'il est toujours publié, ils sont rendus à, je sais pas combien, 250 000 exemplaires. C'est un livre très apprécié, hein? De l'Eucharistie à la Trinité, du Père Bernadot. Parce que Jésus, il le dit bien, se donne à nous surtout par la communion. N'oublions jamais que pratiquement dans la vie quotidienne, c'est surtout par la Sainte Communion que nous nous unissons au Christ. Ça peut paraître étrange. Nous nous unissons aussi au Christ en nous occupant des pauvres, en les servant. Mais le grand moyen de nous enrichir de la vie divine, c'est de manger le pain de la vie. Une union qui est vraiment prodigieuse quand on y pense. Sérieusement, s'établit à ce moment-là. Les unions de la terre, même les plus intimes et les plus belles, n'y sont pas comparables. C'est ce que disait hier Ève Lavallière. Vous vous souvenez à un moment donné? Elle qui a eu des unions fantastiques dans la chair. De très belles unions, pleines d'amour. Elle disait que ça n'arrêtait rien comparé à cette grande union qu'elle ressentait, dont elle communiait. Pour en trouver une pareille, d'ailleurs, il faut, avec Saint Jean Chrysostome, mon Dieu, Saint Jean Chrysostome y a vécu il y a bien longtemps, vous savez, hein? Je vous en ai déjà parlé, il faut remonter jusqu'à l'union des deux natures dans le Christ, dit-il. Voilà une union extraordinaire. Et dire que par l'Eucharistie nous sommes unis à Jésus, comme sa sainte humanité est unie au Verbe éternel. Vous savez que l'incarnation, c'est l'humanité, un homme, un être humain, qui est uni au Verbe éternel, c'est-à-dire celui que le Père prononce de toute éternité, ce Verbe, son Fils, son amour éternel. C'est évident que la vie de Jésus puis la nôtre, ça reste distinct. Bon, comme sa nature et notre nature, comme son âme et notre âme. Bon, il s'établit pourtant une incomparable unité d'amour. Si on veut bien s'unir, si on communie avec foi. Pour nous donner une idée de cette unification du Christ et de l'homme, qui a été défini au Concile de Florence, il y a quelque chose de très amusant, c'est les pères de l'Église qui font appel à des espèces de comparaisons bien sympathiques. Moi, j'aime bien celle de Saint Cyrille de Jérusalem, où il a vécu dans les années 300, lui, Saint Cyrille de Jérusalem, à Jérusalem, il a été évêque, là. Alors, il dit, « Jetez une cire fondue dans une autre cire. L'une et l'autre se pénètrent totalement. » Et ainsi, lorsqu'on reçoit le corps et le sang du Seigneur, dit-il, l'union est telle que le Christ passe en lui et lui dans le Christ, et nous avons même corps et même sang. C'est fort, c'est très beau, mais c'est très vrai aussi. Puis il y a Saint Cyprien qui a vécu un siècle avant, lui, dans les années 200. Oui, il est né en l'an 200, je pense. Saint Cyprien, qui était évêque de Carthage, en Afrique du Nord. Il ajoute, lui, notre union avec lui unifie les affections et les volontés. Que c'est beau, ça. Ça unit nos amours, quoi, puis nos volontés. Ça fait que ce que l'on aime et ce que l'on veut devient semblable, même, je dirais, identique à ce que Jésus aime et veut. Pensons-y bien, au moment de la communion. Jésus entre tellement dans notre cœur et notre âme que nos affections, là, nos amours, nos désirs et nos pensées peuvent être dites ses affections et ses pensées. Il les a d'abord, lui. Puis, il nous les communique, c'est ça la question, il nous les communique selon la mesure actuelle de notre amour. Alors, il faut ouvrir notre cœur, hein, de prendre presque un couteau, là, puis ouvrir notre cœur. Si une âme n'a que peu d'amour, évidemment, Jésus est bien forcé de se resserrer dans les petites dimensions de cette âme, puis de restreindre ses dons. Il n'y a pas de place. Mais au communiant qui est détaché des créatures, pas dans le sens, on l'entendait dans Un homme et son péché, là, détaché de ce qu'on possède, détaché des futilités, quoi. Il faut aimer quand même ses enfants, sa femme, son mari. Il faut aimer quand même son prochain, il faut aimer son curé, il faut aimer tout le monde. Mais c'est un amour qui doit être détaché. Alors, quant au communiant qui est détaché de tout ça, puis de soi-même, détaché de nous-mêmes, de nos petites susceptibilités, « Oh, j'ai été blessé, j'en ai pour 3 jours à pleurer. » Mais voyons donc. J'ai été blessé, puis ça finit là, c'est fini. Dieu m'aime. Et je veux aimer Dieu et je veux aimer les autres. Et on sèche nos larmes rapidement, puis c'est fini. Il y a des gens qui traînent ça pendant des années quand on pense. Cet amour d'eux-mêmes, ils sont si susceptibles. Un amour, donc, qui se livre sans réserve. Le communiant, qui a une âme pure, qui s'ouvre tout entier à l'influence de l'hostie. Mais Jésus, lui, en échange, il se donne comme Dieu seul peut le faire. Il s'établit une circulation de vie, une communication de bien, une unité d'amour qui défie toute expression humaine. Oui, ça, on peut pas expliquer, il faut le vivre. L'âme pénétrée par Jésus devient comme un sol fertile, oui. C'est le printemps, là. Un beau sol fertile là, qui fait germer les fleurs et les fruits, c'est comme ça. L'âme, comme ça, conçoit des pensées lumineuses. Puis, cette âme, elle forme des actes d'amour. Et ces actes d'amour, est-ce qu'ils sont bien les nôtres? Oui. Car ils naissent de notre intelligence puis de notre cœur, mais de notre intelligence unie à l'intelligence de Jésus, de notre cœur uni à son cœur, en sorte qu'ils sont à lui comme à nous. Alors, ensemble, nous adorons. Ensemble, nous aimons. Et nous rendons grâce ensemble. Et nous nous livrons à notre Père. Notre Père qui est dans l'invisible, notre Père des cieux, c'est ça que ça veut dire notre Père des cieux, notre Père dans l'invisible. Car nous sommes dans le ciel, savez-vous ça? Nous sommes au ciel, nos yeux ne nous permettent pas de voir Dieu et les anges qui nous entourent et les saints qui nous assistent. Nous sommes là dans le ciel. Et nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons vivre avec une foi profonde dans ce monde invisible que Dieu habite. Son amour est notre amour, Jésus. Sa pensée est notre pensée, Jésus. S'élèvent mêlés l'un à l'autre comme deux grains, deux bâtons d'encens, hein, qui brûlent ensemble dans le même encensoir et qui n'exhalent vers le ciel qu'un seul parfum. C'est M. Ollier, vous savez, le fondateur des Sulpiciens, c'est l'un des fondateurs de Montréal. Je vous ai déjà fait une émission il n'y a pas longtemps sur lui. Il le dit bien, lui. « Comme votre Père s'insinue en vous de toute éternité au Verbe divin. » Il parle à Jésus, le Verbe divin. Comme votre Père s'insinue en vous de toute éternité au Verbe divin, en sorte qu'il vous remplit tout et qu'il est tout en vous, ainsi, ô mon Jésus, oui, ainsi, ô mon Jésus, vous vous insinuez en moi et vous faites une même chose avec moi par une intime pénétration de tout moi-même. Et la communion, ben, elle nous donne tout, Jésus. Oui, n'oublions jamais qu'au moment de la communion, nous sommes réellement en possession de la vie. Nous avons le Verbe incarné tout entier. Avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, Jésus, homme et Dieu, toutes les grâces de son éminité et tous les trésors de sa divinité, ou bien, pour parler comme saint Paul, la richesse incompréhensible du Christ. Hein, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Et Jésus est en nous comme homme, il est aussi en nous comme Dieu. Comme homme, mais la communion verse donc en nous la vie actuelle, céleste, et toute glorifiée de son humanité, de son cœur. De son âme. Et dans le ciel, les anges sont inondés de bonheur par l'irradiation de cette vie. Oui, sur la terre, quelques saints ont eu la vision du corps glorifié de Jésus. Hein? Vous savez ça, c'est dans les évangiles, puis on en a vu par après, je vous en ai parlé. C'est la bienheureuse Angèle de Foligno, qu'on appelle souvent Sainte Angèle de Foligno. Elle dit que c'était une beauté à faire mourir la parole humaine. Parce qu'elle a gardé de sa vision, elle dit, une joie immense, une lumière sublime, une délectation indicible et continuelle. Une délectation éblouissante, au-delà de tous les éblouissements. Elle l'a vu. Or, il devient Jésus notre festin. Oui, ce corps glorifié devient notre festin, animé par un cœur qui est un abîme d'amour, le cœur sacré de Jésus. Et une âme ineffablement belle, sainte. Éblouissante de lumière, puis inondée de vie, puis de grâce, puis de paix et de joie. Le sanctuaire et paradis de Dieu. Oui, Jésus est en nous comme homme, mais il faut surtout dire que Jésus vient en nous comme Dieu. C'est le comble de la générosité divine, et je vous ai dit que je vous parlerai du don que Dieu fait de son amour. Eh bien, ayant aimé les siens qui étaient en ce monde, il les a aimés jusqu'à la fin. C'est la troisième fois que je vous répète ces paroles de Saint Jean, chapitre 13. Oui, jusqu'à la fin, jusqu'aux ténèbres, jusqu'aux dernières exigences et aux dernières possibilités de l'amour. Alors, quand on communie à la vie divine de Jésus, à sa vie comme Verbe, comme Fils unique du Père. Or, c'est pas des inventions, il nous le dit lui-même. Il dit « Je vis de mon Père » dans Saint Jean chapitre 6. Il dit, en somme, que de toute éternité, le Père donne à son Fils la vie qui est dans son sein. Il la lui donne, évidemment, totalement, sans mesure, et avec une telle générosité d'amour que, tout en demeurant distincts, là, le Père et le Fils, ils ne forment qu'une même divinité, avec une même vie, plénitude de l'amour, de la joie et de la paix. Or, écoutez bien, c'est cette vie que nous recevons, hein. Ah, c'est la bienheureuse Angèle de Foligno. Elle en arrive à s'écrier, « Ô Dieu incréé, ô Dieu doucement incarné, l'homme a mangé votre chair, il a bu votre sang, votre âme, quoi, qu'il ne fasse plus qu'un avec vous dans les siècles des siècles. » Quelle belle prière simple. Mais allons plus loin. La communion nous donne les trois personnes divines, saviez-vous ça? Oui, oui, oui. Le Verbe vient en nous, mais il ne vient pas seul, évidemment. Rappelons-nous ça toujours à la sainte table, là où debout quand on communie. Car il dit, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Là où est Jésus, ô conclusion qui me ravit, là aussi est le Père. Il le dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul. Le Père demeure en moi. Oui, il dit ça toujours dans Saint Jean au chapitre 6. Relisez le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. Je relis ça, c'est toujours aussi beau, c'est toujours de plus en plus beau. Et là où sont le Père et le Fils, bien là encore est le Saint-Esprit, c'est sûr, hein, oui. Tout entière, l'adorable Trinité habite le cœur du communiant, la communiante. Jésus nous l'avait annoncé. Si quelqu'un m'aime, oui, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Moi, c'est une des paroles sur lesquelles toute ma vie est établie. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Il vient pas pour dormir en nous, hein. Notre âme devient donc un sanctuaire témoin d'ineffables merveilles, car les trois personnes divines, les trois personnes divines ne restent pas inactives, évidemment, dans le communion. Le Père y engendre son Fils. Le Père et le Fils y produisent l'Esprit Saint. Oui, éternellement. Le Père énonce une parole semblable et égale à lui-même. C'est ça, la Trinité. Puis dans cette parole, il se dit tout entier. Parole essentielle et vivante, qui est son Verbe. Puis voyant ce Verbe, son image, sa lumière, sa pensée, sa gloire, la forme de son visage, splendeur équivalente de toutes ses perfections, vivant miroir de son être et fruit de son amour, comme disent les mystiques, eh bien le Père l'aime, son Fils, d'un amour sans borne, et le Verbe, qui son Fils, rend un amour semblable, également éternel et infini à son Père. Amour unique, quoique mutuel, vivant et, comme on dit en langage spirituel, théologique, subsistant, embrassement, étreinte, baiser ineffable, qui les consomme dans l'unité de l'Esprit-Saint. Oh, quand on entre dans le mystère de la Trinité, qui est au cœur de notre foi, si je vous parle de ça, c'est pas pour vous ennuyer, c'est pour vous faire rentrer dans ce qu'il y a de plus beau dans le christianisme. C'est le grand mystère, c'est celui dont la contemplation inonde les anges de gloire, de beauté, de bonheur. Parce que ces anges puissamment intelligents, qui découvrent d'un coup les profondeurs de la création entière, peuvent fixer le mystère des trois divines personnes éternellement, sans qu'elles l'épuisent jamais et sans qu'elle rassasie la faim de leurs désirs, leur regard profond et rapide découvre inlassablement dans l'abîme de la vie divine des perfections toujours nouvelles qu'ils contemplent avec ravissement puis chantent avec transport. Et voilà le mystère qui nous apporte la communion. C'est tellement beau ce qu'on célèbre aujourd'hui. C'est tellement grand. C'est en tout temps, il est vrai que nous sommes les temples du Dieu vivant, puisque par la grâce, dit saint Thomas, la Trinité entière est l'hôte de l'âme, mais pourtant, c'est plus encore au moment de la communion, parce que, en ce moment, Jésus vient à nous comme pain de vie, expressément pour communiquer cette vie qu'il tient du Père. Celui qui mange de ce pain aura la vie, il le dit. Mais comment vivra-t-il? Comment le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, est vivant? Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis du Père, ainsi celui qui me mange vivra de moi. Alors notre âme, comme communion, devient comme le ciel de la Trinité. N'oublions jamais, jamais ça. Dans mon âme, comme dans le ciel, le Père énonce son éternelle parole. Il engendre son Fils, puis lui redit en me le donnant, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toutes mes complaisances. C'est comme ça. Quand vous communiez, vous pouvez dire comme ça, là, dans mon âme, maintenant, le Père et le Fils échangent leur mutuelle tendresse. Oui, le Père et le Fils se tiennent dans cette étreinte inénarrable. Ils se donnent cet embrassement vivant, ce baiser ineffable, leur amour s'exhale en ce souffle brûlant, torrent de flamme, qui est l'Esprit-Saint. Vous pouvez dire ça, vous direz, c'est trop. C'est dans le beau livre du Père Bernadeau qui m'inspire pour ça, c'est de l'Eucharistie à la Trinité, c'est à la page 26. C'est des prières extraordinaires. Parce que la communion nous associe à la vie intime de la Trinité, il le dit bien. Je suis associé à cette vie qui m'est donnée, aux ineffables relations d'amour des trois personnes divines. Jésus m'entraîne dans les tendresses de fils qu'il a pour son Père. Il me fait pénétrer dans son cœur. Il m'enveloppe de son âme brûlante d'amour, afin qu'en lui, avec lui et par lui, j'aime son Père qui est mon Père. Il m'apprend, oui, Jésus m'apprend à l'adorer, à le louer et à l'aimer, à me livrer comme lui-même se livre. Puis, il m'apprend à dire avec lui, c'est ça communier. Communier, c'est pas simplement recevoir une hostie, s'en aller dans son banc pour mettre ses gants. Non! C'est de dire avec Jésus, me voici, je viens au Père. Oui, au Père, je viens. Pour faire ta volonté sainte, je confie mon âme entre tes mains. Manus tuas. Et Jésus prie son Père de m'admettre, à ce moment-là, dans le mystère de l'amour des trois personnes. Père Saint, je prie pour que eux aussi, ils soient un en nous. Le Christ récite ses prières là, au fond, si on peut dire, au fond de nous, hein, quand on communie. Le Père, à son tour, m'entraîne dans ses complaisances infinies à l'égard de son Fils. Et parce que c'est Jésus qui le dit, hein, personne ne vient à moi si mon Père ne l'entraîne. Oui, nous sommes entraînés par notre Père. Et il ajoute, mon Père m'a aimé. M'a aimé, oui. Et de quel amour, quand on y pense, d'une tendresse qui n'a pas de nom, qui dépasse toute mesure, et Jésus demande encore et obtient ma participation à cette ineffable tendresse. Père Saint, que l'amour dont vous avez aimé, dont vous m'avez aimé, soit en eux. Ainsi, nous sommes conduits au Père par Jésus, puis à Jésus par le Père. C'est un mouvement éternel de l'amour du Père et du Fils. C'est dans l'Esprit Saint, ô Père, que vous m'amenez à Jésus. C'est le Seigneur qui disait à la bienheureuse Angèle de Foligno, si quelqu'un veut me posséder dans mon âme, je ne me soustrairai pas à lui. Mais si quelqu'un veut me voir, je lui donnerai avec transport la vision de ma face. Et ainsi, ce que saint Thomas d'Aquin écrivait de l'union par la grâce, on peut à plus forte raison le dire de l'union dans l'Eucharistie, dans la communion, hein. Elle est le commencement, dit-il, de la béatitude éternelle. Oui, les élus possèdent Dieu par la vision au ciel. Tandis que nous le possédons dans la foi. Oh, c'est pas facile, pas facile. Mais la communion, comme la vision au ciel, nous le donne, n'oubliez jamais ça, nous le donne immédiatement, complètement, sans autre intermédiaire ni d'autre obstacle que celui de nos péchés, puis surtout de notre tiédeur. C'est ça qui nous ramène lourdement, comme si on avait des semelles de plomb. Si notre foi était assez vivante pour éliminer cette tiédeur, faire une grande place, là. Si notre amour avait assez d'ardeur pour écarter tout obstacle, préparer à l'hostie la réception que la purification du purgatoire prépare à la vision éternelle, mais les effets seraient presque les mêmes. Pourquoi pas? Nous serions saturés de vie eucharistique. Et là, comme des voyageurs chrétiens, nous serions transformés en Dieu par la communion. Comme les élus sont transformés au ciel par la gloire, et quand on y pense, on a l'impression très forte que, pris d'une adorable impatience, Dieu ne peut plus se résoudre à attendre que sonne pour chacun l'heure de l'union bienheureuse dans la mort, hein, puis le passage. L'amour de Dieu a hâte de contracter l'union qui ne doit pas finir. Alors, il se fait pain, puis il se fait vin. Oui, du vin. Et il nous dit, c'est dans le Cantique des Cantiques, il nous dit ceci, « Je suis la nourriture des grands âmes. Alors crois et mange, car tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton corps, c'est toi qui seras changé en moi. » Cantique des Cantiques, chapitre 5. Il ajoute, « Venez, mes amis, mangez et buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. » Ah, comme dit la bienheureuse Angèle de Foligno, « Ô Jésus-Christ, Créateur, ô Jésus-Christ, créature, ô vrai Dieu et vrai homme, ô vrai chair et vrai sang, ô union ineffable, ô rencontre d'immensité, ô Seigneur, je vais de votre humanité à votre divinité, de votre divinité à votre humanité, je vais et je reviens, et l'âme, dans sa contemplation, rencontre la divinité ineffable qui porte en soi les trésors de richesse et de science. » Je vois ce corps, je vois le sang, où je puise le salut de ma vie, et puis je vois ce que je ne peux pas dire. Ah, dit Angèle de Foligno, si nos yeux s'ouvraient, Quel prodige ferait en nous, aux approches du mystère, le respect et l'humilité? Oui, ça ferait des prodiges. Ça les fait chez les saints. Comment ça se fait que ça ne le fait pas en moi? Hein? Mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs, ça le fait en eux. Hein? Priez pour moi. Priez pour moi.